Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on commence ce matin à regarder les plantes d'un autre œil. Gérard Dussert, quand je vous vois, je pense que vous êtes une sorte de Sherlock Holmes des plantes. C'est l'image que j'ai de vous, alors je vais vous demander un exercice un peu difficile aujourd'hui puisque je vous attrape au vol dans ce séminaire sur la détoxification des plantes, des sols et des humains auquel vous participez en compagnie du professeur Gilles-Éric Serralini, du docteur Joël Spirou. Et donc, vous n'êtes pas dans votre élément, c'est-à-dire on n'est pas dehors et vous n'êtes pas en train de regarder le sol autour de vous. Mais j'ai eu l'occasion de vous voir faire et j'aimerais que vous essayiez de nous raconter la façon dont vous procédez. Je disais un Sherlock Holmes parce que d'entrée de jeu, vous repérez un nombre incroyable de plantes qu'on voit à peine, tant elles se confondent avec le gazon, les herbes, la prairie. Et non seulement vous les repérez, mais vous en déduisez toutes sortes de choses sur la santé, la bonne ou la mauvaise santé du sol en question.
Les plantes, c'est ce que j'appelle moi les plantes bio-indicatrices. Les plantes, elles ont un rôle fantastique dans la nature et puis pour l'homme, pour les animaux, pour l'homme, n'importe comment déjà, elles nous nourrissent. Hein. C'est grâce aux plantes qu'on peut avoir des substances nutritives. Hein. Les plantes synthétisent les sucres. Mais les plantes aussi fabriquent des médicaments, fabriquent des molécules qui vont soigner le sol ou les plantes ou les hommes. Pour comprendre ça, il faut remonter donc au passage du ginkgo biloba au sapin, au conifère, où à ce moment-là...
Là, vous remontez dans l'histoire, en fait. Le ginkgo biloba, il faut quand même le préciser, il est plus ancien que le conifère.
150 millions d'années, le ginkgo biloba. Donc, à un moment, chez le ginkgo biloba, le pollen se pose sur l'ovule et féconde l'ovule et la plantule démarre. Et donc, quand la plantule démarre sur l'arbre, la plantule, elle se dessèche. Il n'y a que si l'ovule est tombé au sol que ça se passe bien. Donc, dans l'évolution, il y a eu un moment où, au moment où le pollen se pose sur l'ovule, la germination se bloque, elle ne démarre pas. Donc, l'ovule entre ce qu'on appelle en dormance. Et un ovule en dormance, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une graine. Et il n'y a que lorsque la graine est tombée au sol et qu'elle se trouve dans des conditions environnementales qui correspondent à ce qu'il y a décrit dans sa génétique, qu'elle va débloquer sa dormance et germer. Alors chaque graine est spécialisée à germer dans un milieu particulier. Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit que, admettons, dans un sol où le phosphore est bloqué, ça va lever la graine de plantes comme le chardon commun, Circium arvincée, et ce chardon va faire des racines qui vont plonger dans les couches profondes du sol pour aller chercher le phosphore qui est bloqué, le remonter, le métaboliser, le remonter en surface sous forme assimilable et réenrichir la surface de la terre en phosphore assimilable. Donc le chardon, la plante qui va pousser dans un sol où il y a un problème, c'est la plante qui va soigner ce problème dans le sol.
Ça veut dire que tant qu'il y a du phosphore en quantité suffisante dans le sol, le chardon ne poussera pas.
Tant qu'il y a du phosphore assimilable en quantité suffisante dans le sol, le chardon, il est en dormance, il ne bouge pas. La graine peut rester en dormance 100 ans, 200 ans, 300 ans, 1000 ans.
Et germer ensuite ?
Elle attend son jour. Ah oui, 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 et germer ensuite. Nous, on a fait plusieurs expériences comme ça, dont une... à la tour du Bost, là, à côté de Mont-Saint-Vincent, dans le centre du département de Saône-et-Loire, une vieille tour du 9e siècle. Puis il y a des jeunes qui ont acheté cette tour et qui ont entrepris de la retaper un petit peu pour qu'elle finisse pas de s'écrouler, pour la maintenir. C'est une tour, donc les murs étaient faits en pierre, les pierres jointées avec de la terre, tout le centre du mur, c'était de la terre. Et donc tous les gravats, ils les ont balancés par-dessus le haut de la tour, et ça fait un tas au pied de la tour. Et dans ces gravats, il est germé une plante qui s'appelle Yosiamus niger, la gisquiame noire. On a utilisé cette plante jusqu'en l'an 1000 pour empoisonner les flèches. Donc dans le mur, à la construction de la tour, on avait fait une cache pour mettre de la graine de gisquiame. Et cette graine, elle attendait depuis 1000 ans et elle a germé.
Mais alors attendez, parce qu'il faut que vous nous expliquiez plusieurs choses là, Gérard Dussert. Les semences agricoles, elles ne peuvent pas germer au bout de 1000 ans.
Ben, les semences agricoles, leur problème, c'est que le réservoir génétique est sérieusement rétréci. Comme la plante, elle attend dans le sol avec un réservoir génétique important et elle analyse son environnement, elle va germer que si ça correspond à son réservoir génétique. Si le réservoir génétique est totalement rétréci, ça ne va pas le faire, ça c'est sûr.
D'accord. Alors, deuxième question. Qu'est-ce que c'est qu'un sol, finalement? Parce que là, vous nous parlez de graines qui sont là, qui attendent depuis des millénaires. Vous nous parlez de phosphore qui est là, tantôt disponible, tantôt pas disponible. Qu'est-ce qui se passe?
Le sol, c'est un milieu vivant. Donc, c'est un milieu en perpétuel mouvement, donc un milieu en perpétuel changement, donc extrêmement variable. Même les gens, ils disent « Ah ouais, j'ai tel et tel sol dans mon jardin ». Non, non. Et c'est plus compliqué que ça, parce que dans votre jardin, vous n'avez pas un type de sol, vous avez plusieurs types de sol, ce que les anciens appelaient les veines de terrain. Et donc, on peut avoir dans la même parcelle une zone un peu plus calcaire, une zone un peu moins calcaire, une zone avec un peu plus de matière organique, une zone avec un peu moins de matière organique. Alors, pour en revenir à qu'est-ce que c'est qu'un sol, ça s'est passé il y a 200 millions d'années, aux fameuses époques qu'on a appelées le carbonifère, où les fougères ont fabriqué des quantités énormes de matière organique sur la plaque terrestre, qui était la plaque rocheuse. Justement, ils n'existaient pas, le sol, encore. Et ces quantités énormes de matière organique fabriquées par les fougères, une partie s'est enfoncée dans les couches profondes et a formé ces couches de charbon qu'on exploite aujourd'hui, charbon et pétrole qu'on exploite aujourd'hui. Mais par contre, une autre partie est restée en surface, s'est recombinée avec le minéral de la roche-mère, a été peuplée par les micro-organismes, bactéries, champignons, par les macro-organismes, les animaux, quoi. Alors les animaux, ça va des animaux microscopiques qu'il faut un microscope pour voir, comme les collemboles, aux vers de terre, aux lapins, et ainsi de suite, hein, même aux gros animaux comme les éléphants, pour former cette couche vivante qui est entre la roche-mère et l'atmosphère, qu'on appelle le sol, qui est la peau de la terre.
Oui, mais toutes ces graines de plantes, toutes ces semences de plantes, elles y sont toutes, partout? Là, vous nous parliez du chardon commun, d'accord, il est commun. Mais la jusquiame, elle est partout et elle attend son heure, partout?
Alors, depuis que la dormance est apparue, la nature, grâce à ce phénomène de la dormance, a pu faire des stocks dans le sol. De même que vous pouvez avoir un stock de graines dans votre placard qui attend d'être semé. S'il n'y avait pas la dormance, on ne pourrait pas avoir un paquet de graines de poireaux, un paquet de graines de radis qui attendent dans le placard pour être semé. Bon, c'est pareil pour la nature. La nature, elle fait des stocks de graines dans le sol. Alors, sur les stocks énormes que la nature fait, parce que vous savez, les plantes, elles sont très productives, hein, en graines. Un coquelicot, il peut faire plusieurs milliers de graines. Donc, il y a des quantités énormes de graines qui tombent dans le sol. Bon, bien sûr, une partie de ces graines va être mangée par les animaux, par les rongeurs, par les oiseaux, et ainsi de suite. Donc, d'ailleurs, ça les nourrit. Hein. Et puis, une partie de ces graines va mourir, va se détruire, mais une partie de ces graines va rester vivante pendant des temps très longs, quoi. Et ce qui fait que, depuis 150 millions d'années qu'existe la dormance, les graines ont eu le temps de se répartir à peu près partout sur la planète, ce qui fait qu'on a un peu de tout partout. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines espèces qui manquent. Avec la dérive des continents, les espèces américaines n'ont pas pu se semer en Europe. Avec la dérive des continents, les espèces australiennes n'ont pas pu se semer en Afrique. Mais dans un continent, on a une répartition importante de toutes les graines du continent.
Et on a même, dites-vous, Gérard Dussert, des plantes de certaines îles, je pense à la Corse, qu'on retrouve dans des morceaux de la France continentale.
Ah oui, parce que là, ils ont carrément dérivé avec les morceaux de continent. Alors donc, l'axe tyrrhénien qui s'est cassé en morceaux, qui a formé la Corse et la Sardaigne d'un côté, les Baléares de l'autre, et puis des petits morceaux qui sont venus s'encastrer dans le continent. Un, les Maures et l'Estérel, l'autre, les Cévennes. Et c'est marrant parce que donc, dans la vallée française, dans les Cévennes, on retrouve trois plantes qu'on ne trouve qu'en Corse ou dans les Cévennes. Donc okay. Ils sont venus, ils ont servi de la plaque comme bateau, quoi.
Lesquels?
Eh ben, une osmonde, l'osmonde royale, et puis le patois chanvrine de Corse, et puis une toute petite fougère qui s'appelle Ophioglossum, donc qui sont des plantes corses qu'on retrouve dans les Cévennes.
Donc sur un sol schisteux, c'est ça?
Ah bah oui, parce que bien sûr, la composition est la même, la roche, puisque c'est un morceau de l'axe tyrrhénéen qui a dérivé et qui s'est encastré au Massif central. Donc cet axe tyrrhénéen a été formé de granit et de schiste. Donc là, ça se trouve un morceau schisteux. C'est les Cévennes schisteuses, la vallée française.
Alors donc, il y a de ces graines en dormance. J'aime bien ce terme de dormance parce qu'on les sent effectivement vivantes et susceptibles d'être vigilantes à ce qui se passe autour d'elles. Donc il y a toutes ces graines, Gérard Dussert, et puis il y a des minéraux. Alors le phosphore, le phosphate.
Oh là là, c'est complexe. Hein. Dans les sols, on a donc, je vous ai dit, des minéraux, oui. Alors les minéraux qui sont issus de la décomposition de la plaque terrestre, de la roche mère. Donc il y a de la silice qui provient du granit, il y a de l'argile, il y a...
Du calcaire.
Il y a du calcaire. Alors le calcaire qui a été fabriqué par les animaux, lui. Hein, le calcaire n'est pas issu de la roche mère. Hein. Le calcaire a été fabriqué par les animaux. Et puis il y a des tas de minéraux qui sont aussi contenus dans les autres minéraux. Parce que les schistes et les granites, bien sûr, contiennent de la silice, mais contiennent aussi des mica blanc, mica noir, qui contiennent eux-mêmes du magnésium, de la potasse. Donc les roches calcaires, justement, il y a aussi du phosphore. Donc on voit que la nature, elle a bien réparti aussi les minéraux. Comme les graines ont été réparties, les minéraux aussi.
Mais qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, le phosphore, par exemple, est ou n'est pas disponible?
Alors, ces minéraux peuvent être soit solubles, parce qu'ils ont été broyés par l'érosion, broyés par les glaciers, décomposés par les micro-organismes, et puis donc ils sont solubles et disponibles dans le sol. Mais il y a d'autres minéraux qui sont toujours inclus dans la roche mère, dans le granit. Donc, à l'intérieur du granit, vous avez du mica noir et du mica blanc qui contiennent de la potasse et du magnésium. Mais donc, ces minéraux-là, ils sont absolument pas disponibles pour les plantes. Ils sont bloqués dans le minéral. Alors, il va falloir que les micro-organismes aillent décomposer la roche, notamment les bactéries aérobies et anaérobies, qui aillent décomposer la roche pour libérer ces éléments. Alors, de même, dans l'autre sens, il y a certains éléments libérés dans le sol qui normalement devraient être disponibles, qui peuvent se bloquer parce qu'il y a eu un dysfonctionnement du sol. Il y a eu une perte de la vie bactérienne du sol ou une perte de la vie des champignons microscopiques qu'on appelle les mycorhizes du sol. Et ces minéraux vont à nouveau se retrouver rebloqués dans la roche. Et donc c'est ce qu'on appelle en agronomie les blocages. Alors, notamment la potasse et le phosphore, c'est les deux qui se bloquent le plus.
Et alors on en vient, Gérard Dussert, à ces fameux dysfonctionnements du sol, puisque pendant des années, vous avez fait ce travail d'être un investigateur. Je parlais de Sherlock Holmes, vous alliez chez les particuliers, vous le faites moins aujourd'hui, vous êtes plutôt formateur, mais vous alliez chez les uns, chez les autres, et vous auscultiez en quelque sorte ce qui s'était passé chez les sols des uns et des autres.
Ben oui, j'ai travaillé énormément donc à décoder qu'est-ce qui lève la dormance des graines. Et quand on arrive à décoder qu'est-ce qui lève la dormance d'une graine, on peut repartir dans l'autre sens. Quand on réussit à décoder que c'est le blocage du phosphore qui lève la dormance du chardon commun, quand on est en présence de chardon commun, on se dit, tiens, ici, autour du pied de chardon, 10 cm sur 10 cm, le phosphore est bloqué. Alors, grâce à ça, quand on arrive à décoder un certain nombre d'espèces d'un certain nombre de problématiques différentes, on peut faire ce qu'on appelle des diagnostics de sol, faire des analyses de sol par les plantes présentes. Et donc, j'ai fait énormément de visites, d'inventaires et de recherches, notamment chez les agriculteurs, pour, par les plantes, voir ce qui se passait dans les sols et voir quelles étaient les problématiques du sol.
Et si je vous demandais de faire un diagnostic un peu général sur l'état des sols en France ?
Alors, le diagnostic général d'état des sols en France, le mien, correspond à celui qu'a fait l'INRA il y a déjà quelques années. C'est qu'il y a énormément de sols qui sont en perte de vitesse, qui sont en perte des vies microbiennes aérobies et anaérobies, et qui sont en perte aussi de leur porosité. Ils se sont tassés. C'est-à-dire que quand il pleut, l'eau ne pénètre plus. Le sol est trop tassé pour que l'eau puisse pénétrer, même dans les sables. Certains sols qui sont très sableux, comme la Sologne, comme les Landes, et ainsi de suite, le mauvais traitement qu'on a fait à ces sols par l'agriculture fait qu'ils se sont assez colmatés et où l'eau ne pénètre plus, donc qui ruisselle dessus au lieu de pénétrer. Alors si l'eau ne pénètre pas, les racines des plantes ont du mal à pénétrer aussi, les plantes ne peuvent plus s'enraciner, donc auront un moins bon développement. La vigne qui avait des racines qui pouvaient faire 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres autrefois, aujourd'hui on a des cas de figure où on a des vignes qui ont des racines de 30 cm maximum, quoi. Ils ne peuvent plus s'enraciner parce que les sols sont trop durs. Alors si les sols sont trop durs, il y a aussi un autre inconvénient, c'est que toute la vie du sol a besoin d'oxygène pour vivre. Donc il faut que l'air pénètre dans le sol pour apporter l'oxygène aux micro-organismes et aux champignons. Donc le compactage des sols, le fait que les sols ne sont plus poreux, va aussi faire qu'il y aura une mauvaise oxygénation du sol. Donc c'est pour ça que les sols sont en perte de vitesse. Et donc l'INRA nous disait, il y a déjà 5, 6 ans, 7 ans maintenant, la dernière publication, qu'il y avait 71% des sols français qui avaient perdu leur porosité. Et donc maintenant, ça s'est aggravé encore depuis. Il y en a plus.
Alors, quand on parle de sol compacté, de sol dur, comme vous venez de le faire, Gérard Dussert, on pense en général aux vers de terre, aux lombrics, qui sont les grands aérateurs, et on sait que le fait de les avoir traqués pendant des années n'était certainement pas une bonne idée. Mais vous y ajoutez aussi le rôle des plantes elles-mêmes.
Alors, le sol tient à tout. C'est tout un fonctionnement. Donc le sol va bien sûr comprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, le minéral va comprendre la matière organique qui était fabriquée à l'origine par la fougère et qui est fabriquée par les plantes aujourd'hui, et puis les animaux. Donc, ce sol est peuplé de bactéries aérobies de surface, de bactéries aérobies profondes, et en dessous, de bactéries anaérobies. Alors, il ne faut pas non plus prendre surface ou profonde, il faut s'entendre, c'est des termes scientifiques. Parce que aérobie de surface, c'est 5 cm, bon, ça on peut le comprendre. Aérobie profonde, c'est 10 cm. C'est pas 50 cm. Donc, voilà. Et puis, en dessous, ce sont les bactéries anaérobies. Et il y a des échanges permanents qui se sont faits entre la surface et les profondeurs. Dans ce sol, il va y avoir aussi des plantes qui vont pousser. Ces plantes qui vont pousser vont fabriquer du carbone. Ce carbone, donc quand la plante, la partie souvent, les plantes, elles poussent toute l'année, puis à l'automne, la partie aérienne se dessèche, et puis ça repart au printemps suivant sur les racines. Donc cette partie aérienne, elle est très carbonée, et il va falloir qu'elle devienne quelque chose. Donc elle va se coucher sur le sol, les micro-organismes vont mobiliser l'azote qu'il y a dans le sol pour transformer cette matière organique carbonée en humus. Alors l'humus, c'est la matière noble. C'est celle qui va permettre le stockage des éléments fertilisants, qui va permettre aux minéraux qui sont libres dans le sol, justement, de rester disponibles pour les plantes et non pas d'aller se rebloquer dans la roche-mère et être à nouveau indisponibles. Donc cette matière organique va permettre donc de stocker les éléments. Alors, quand ce sol fonctionne bien, les racines des plantes peuvent descendre très profond. Je dis, les racines de la vigne peuvent descendre à 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres et vont servir de canal pour permettre à l'eau, quand il pleut, de s'infiltrer et de descendre dans les couches profondes, d'aller alimenter les nappes phréatiques. Quand il y a de la bonne matière organique dans le sol, c'est une très bonne nourriture pour les vers de terre. Donc, en même temps, ça va faire se développer les vers de terre. Ces vers de terre qui vont également faire des galeries qui vont permettre à l'eau et à l'air de rentrer et d'aller alimenter tout ce petit monde qui vit là, sous nos pieds. Et non seulement il va y avoir les vers de terre, mais les vers de terre, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont attirer des gens qui aiment bien manger des vers de terre, comme les taupes. Donc les taupes vont venir manger les vers de terre, et quand les taupes vont venir manger les vers de terre, ils vont également faire des galeries. Ces galeries qui vont permettre également à l'eau de s'infiltrer et à l'air de rentrer dans la terre. Donc, lorsqu'il pleut, le sol vient à saturation d'eau. Grâce aux racines des plantes qui font canal, grâce aux échanges électriques entre les différentes bactéries et grâce aux galeries des vers de terre ou des taupes, cette eau va pouvoir descendre, aller alimenter les nappes phréatiques quand il pleut. Mais quand il fait sec, ça peut permettre justement à l'eau de remonter des profondeurs, alimenter le sol et éviter la sécheresse de surface. Donc on voit que ça ne marche pas dans un seul sens, ça marche dans les deux sens. Et si on veut qu'un sol ne craigne pas le sec, et d'autant plus qu'on est quand même en période qui sont, où il fait de plus en plus chaud les étés et où il y a de plus en plus de sécheresse, on a intérêt à faire attention que nos sols soient riches et vivants pour éviter les sécheresses, éviter les catastrophes, éviter d'avoir besoin de demander des subventions tout le temps parce qu'on a eu la sécheresse. L'impôt sécheresse, ça va une fois, mais il vaut mieux prévenir que guérir quand même. Et ça, c'est par la fertilité des sols, par l'humus, par la vie du sol, aussi bien bactérien que vers de terre, qu'on peut éviter ces catastrophes.
Alors, Gérard Dussert, moi je vous lance sur les plantes et vous me répondez immédiatement par les vers de terre, par les taux, par toute la vie animale. Alors que je vous tentais une perche là, je pensais que vous alliez partir dans la défense de ce qu'on appelle les mauvaises herbes et qui sont en fait justement cette fameuse fertilité, enfin qui sont une composante importante de cette fertilité du sol que vous êtes en train d'évoquer.
Dans ce que je viens de dire, les plantes en font partie intégrante.
Oui, oui.
Les mauvaises herbes, quand elles vont mourir de vieillesse ou quand elles vont se dessécher l'hiver ou quand elles vont être détruites par l'agriculteur, vont bien se décomposer et faire de la matière organique qui va, grâce aux bactéries, fabriquer de l'humus. Donc, n'importe comment, mauvaise herbe, c'est un très mauvais terme. Ça n'existe pas, les mauvaises herbes. Ce qu'on appelle une mauvaise herbe, c'est une plante dont on ne connaît pas les propriétés. Je vous donne un exemple, le chardon, qu'on disait tout à l'heure. Le chardon, tout le monde considère le chardon comme une très mauvaise herbe. Le chardon est une plante qui, dans un sol compacté, dans un sol dur, est capable de descendre ses racines en profondeur, malgré que le sol soit dur, et donc de réouvrir le sol pour que l'eau puisse pénétrer et l'air puisse pénétrer. Et puis le chardon, en plus, il est capable d'aller chercher le phosphore bloqué dans la roche pour le remonter en surface sous forme assimilable. Donc il va corriger tous les défauts du sol. Et puis les plantes ont une autre propriété encore. Les plantes, elles absorbent l'eau et les sels minéraux du sol qui montent dans les feuilles pour faire de la photosynthèse, fabriquer des sucres que nous, on va se servir, on va manger. Mais les plantes, elles sécrètent aussi des substances au bout des racines, qu'on appelle les exudats racinaires. Et ces exudats racinaires vont soit lever la dormance d'autres plantes pour vivre en symbiose avec, soit favoriser le développement de micro-champignons qu'on appelle les mycorhizes. Les mycorhizes, en fait, sont des micro-champignons qui se mettent en gaine autour des racines et qui vont permettre la communication entre la racine et la terre et son environnement et permettre justement à la plante d'absorber les éléments fertilisants, de se nourrir. Donc ces gaines de champignons sont extrêmement importantes. Et puis, découverte tout à fait récente, on s'aperçoit que certaines de ces mycorhizes, certains de ces champignons qui vivent autour des racines des plantes dites mauvaises herbes, sont capables de décomposer les molécules de synthèse et capables donc de nettoyer le sol des molécules de synthèse, donc de nettoyer nos sols de toutes ces pollutions que l'agriculture chimique a mis en place. Donc on voit que c'est extrêmement important d'avoir des plantes pour faire des exudats racinaires, favoriser le développement de ces champignons qui vont épurer nos sols. Quoi. Et souvent, ces plantes qui font ça, c'est celles qu'on appelle les mauvaises herbes.
D'accord, Gérard Dussert, il n'y a pas de mauvaises herbes. Mais il y a des mauvais sols, vous le dites vous-même. Sauf que là, à part que vous nous avez dit que les sols n'étaient pas en très bon état, vous vous en éloignez tout de suite. Vous avez décidé de dire adieu à l'agriculture, définitivement ?
Non, parce que l'agriculture, ça peut être le pire et la meilleure des choses. Quoi. C'est l'agriculture qui va favoriser le développement ou le non-développement de la vie dans le sol. Donc les bactéries...
Dans les sols agricoles.
Dans les sols agricoles. Bien sûr, on parle des sols agricoles. Oui. Les bactéries, donc, ont besoin de base pour vivre, comme les plantes. C'est-à-dire les bases dans le sol, hein, c'est la potasse. C'est le magnésium, surtout, et c'est le calcium. Ces éléments peuvent être soit sous forme de base, c'est-à-dire actifs, c'est-à-dire faire monter le pH, soit sous forme minérale dans la roche, et à ce moment-là, ils ne sont pas actifs, ils ne font pas monter le pH, mais ils sont présents quand même. Et les bactéries en ont besoin. Donc, dans un sol agricole, on va prendre le pH, et puis on va voir pH 1, c'est l'acide chlorhydrique, pH 7, c'est la neutralité, pH 14, c'est la soude caustique. Et puis l'agriculteur va dire, j'ai un sol qui a un pH qui est plutôt acide, qu'en Sucette. Donc, il faut que je ramène des amendements calcaires pour corriger ça. Déjà, si le pH est compris entre 5 et 7, il ne faudrait surtout pas emmener d'amendement calcaire, puisque la vie microbienne a son optimum à 6,5. Sur un sol qui a un pH en dessous 7, c'est encore pire. Là, il ne faut surtout jamais amener ni amendement calcaire, ni de cendres de bois, parce que là, on va provoquer des catastrophes. Par contre, il y a certains cas de figure où on a besoin d'amener des amendements calcaires. En agriculture conventionnelle, on va mettre ce qu'on appelle de la chaux. La chaux vive. Donc la chaux, c'est des calcaires qu'on passait dans des hauts fourneaux et le fait de les cuire, ça réduit le calcaire en particules extrêmement fines. Et les particules fines de calcaire ont une propriété extraordinaire qui sont les plus grands bactéricides qui existent. Et plus les particules sont fines, le plus le calcaire est bactéricide. Donc si on met de la chaux sur un sol, bah, on va tuer tout ce qui vit dans le sol. Les bactéries, les vers de terre, tout, quoi. Alors, on dit, bon, ben, on ne va plus mettre de chaux vive, on va mettre du carbonate ou on va mettre des carbonates de chaux, c'est-à-dire des calcaires broyés mais crus, qu'on n'a pas passé dans les hauts fourneaux, ou on va mettre du lithotam.
Qu'est-ce que c'est le lithotam ?
Alors, le lithotam, c'est une algue marine qui est calcifiée, qui fabrique du calcaire. C'est ces fameuses plantes qu'on fabriquait il y a 500 millions d'années, les roches qu'on appelle calcaire aujourd'hui, quand ils sont fabriqués par les plantes ou par des animaux aussi, bien sûr, les coraux notamment. Mais cette algue calcaire, donc, qui a tous les alvéoles marins, qui est un véritable trésor, quoi. Et l'homme, l'agriculteur, voulant faire bien, a décidé de ce calcaire, de le microniser, on appelle ça, c'est-à-dire de le broyer d'une manière extrêmement fine, parce que pensant qu'il serait plus soluble, qu'il serait plus absorbé par les plantes, qu'il serait un meilleur engrais, quoi.
C'est-à-dire on refait la même erreur qu'avec la chaux qu'on a mise dans un four ?
Tout à fait, c'est un produit noble, c'est un produit hautement intéressant, et on recommence la même erreur et on recommence les mêmes problèmes, parce que le lithotam micronisé, il est aussi bactéricide que la chaux vive, quoi. On ne le fait pas cuire, mais...
Mais alors, il faudrait jamais mettre de calcaire dans les sols ?
Alors, il y a des cultures qui ont besoin de calcaire.
On a fait ça pendant des siècles, non ?
Non, mais il y a des cultures qui ont besoin de calcaire et il y a des sols qui ont besoin de calcaire. Déjà, il faut amener du calcaire que s'il y en a vraiment besoin. Soit pour une culture donnée, comme les choux ou les luzernes qui ont vraiment besoin de calcaire, soit parce que le sol en est vraiment carencé, quoi. Mais il faut l'amener sous une forme qui ne soit pas bactéricide. Et c'est assez simple. Il suffit de l'amener juste concassé, pas broyé finement. Il ne faut pas qu'il y ait de particules en dessous de 0,2 mm de diamètre. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit sous forme de sable. Quand on amène le calcaire sous forme de sable, il n'est pas bactéricide et il ne pose pas de problème dans le sol. Donc, on voit qu'on a fait quand même énormément de dégâts. Et là, on a tué la vie du sol, on les a fait compacter, ainsi de suite, en amenant des amendements calcaires. Alors, deuxièmement, les bactéries du sol ont besoin aussi d'oxygène pour vivre. Alors là, je ne vous dis pas, les sols sur lesquels on roule avec des tracteurs qui font plusieurs tonnes, ou des machines, ou des remorques en silage avec des poids astronomiques dedans, quand on fait du surpâturage avec les animaux qui piétinent, on va tasser le sol. Et là, il n'y a plus d'oxygène dans le sol quand on l'a tassé. Alors si on le tasse par temps sec, bon, ça ne se passe pas bien, mais c'est pas très très grave encore, parce que l'air étant élastique, quand le tracteur est passé, le sol va remonter et va se réaérer à nouveau. Mais lorsque vous tassez le sol par temps humide, alors là c'est catastrophe, parce que ça va produire un phénomène qu'on appelle hydromorphisme, c'est-à-dire que le sol va passer en anaérobiose totale, et là les fermentations vont complètement changer. C'est-à-dire que la matière organique, au lieu de se transformer en humus, elle va partir vers la putréfaction et faire des hydrocarbures. Alors souvent sur ces sols en hydromorphisme, d'ailleurs, sur une flaque d'eau dans une ornière ou qu'à stagner sur la parcelle de culture, on va voir comme si on avait mis de l'huile.
Ouais.
Alors moi, quand on fait des balades avec des gens plus ou moins citadins qui ne connaissent pas l'agriculture, ils nous disent « Oh là 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 là, l'agriculteur, il a vidé son gasoil ». Mais non, 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 c'est pas l'agriculteur qui a vidé son gasoil. C'est la nature qui a fabriqué du pétrole, qui a fabriqué des hydrocarbures, et c'est ça qui flotte sur l'eau, qui paraissent être de l'huile qu'on a mis, mais c'est la nature qui l'a fabriqué.
C'est des résidus de plantes.
C'est la décomposition de la matière organique, oui. Ben, n'importe comment, le pétrole, c'est des résidus de plantes. Le charbon, c'est des résidus de plantes.
Ouais.
Et donc, si on met la matière organique en condition comme il y a 200 millions d'années, eh ben, ça fait du pétrole, ça fait du charbon, mais ça ne fait pas de l'humus, quoi.
Mais alors, sur un sol comme celui-là, Gérard Dusserre, les plantes ne poussent plus, elles se contentent de se décomposer.
Ah ben, les plantes, elles ne se décomposent pas, même. Elles rentrent en putréfaction. C'est différent de la décomposition. La putréfaction,
pardon,
ça sent mauvais. Hein. La putréfaction, c'est la molécule de protéine qui est cassée en petits bouts. Carbone d'un côté, hydrogène de l'autre, oxygène de l'autre, azote de l'autre. Puis, comme les molécules de protéine, elles ont un atome de soufre en queue de molécule, le soufre se dégage et c'est ce qui sent l'œuf pourri, hein, c'est ce qui sent mauvais, quoi. Donc, c'est vraiment de la putréfaction. Et d'ailleurs, dans ces sols en hydromorphisme, si on fait un trou avec une bêche et puis qu'on sent la terre, ça sent pas la terre, ça sent la vase, quoi. Ça sent pas de bons champignons, comme dans les bonnes terres, ça sent la vase. Puis la couleur, hein, on a une couleur bleutée qui va se dégager... Alors, dans ces sols-là, il y a aussi une autre problématique, c'est que ça va faire décomposer les argiles. Les argiles, donc, la molécule, c'est des silicates d'alumine hydratés. Donc, de la silice, de l'aluminium, et puis de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, ces molécules se décomposent et l'aluminium se dégage sous forme soluble, sous forme d'aluminium ionique, Al3+, et ça, c'est toxique. Toxique pour le sol, toxique pour les plantes, toxique pour les animaux qui mangent les plantes, toxique pour l'homme. Hein. Donc, dans ces sols en hydromorphisme, il va y avoir aussi des problèmes de toxicité des produits qu'on va récolter là-dessus. Quoi.
Parce qu'on va quand même récolter quelque chose, c'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Ben, bien sûr, parce que l'agriculture moderne a réponse à tout, quoi. Maintenant, on n'a même plus besoin de sol vivant pour produire. Suffit d'amener les éléments sous forme très soluble, type ammonitrate, ou même sous forme d'engrais liquide, et puis on va nourrir les plantes, mais d'une manière totalement artificielle, quoi. Et si l'année n'est pas trop sèche, ça va bien se passer, mais les racines ne vont pas plonger. Donc si l'année est sèche, ça va mal se passer. Mais les années normales, on va produire des plantes quand même, mais des plantes qui sont carencées, des plantes comme elles n'ont pas enfoncé leurs racines, elles n'ont pas pu non plus aller chercher les éléments minéraux de profondeur. Alors on aura des plantes qui seront carencées en phosphore, carencées en magnésium, carencées en cuivre, carencées en potasse, carencées en tas d'éléments. Et du point de vue nutritionnel, après, ben, nous, on va retrouver les carences. Si on mange un aliment carencé, on aura aussi des carences. Donc, ces sols produisent quand même, grâce à l'agriculture moderne, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que le plus on va essayer de faire produire un sol mort, le plus on va le polluer, le plus on va le dégrader. Donc, à un moment, ça ne produira plus du tout. Ça produit encore aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 20 ans, ça ne sera peut-être plus la même chose.
En vous écoutant, Gérard Dusserre, je repense à ce qu'avait dit un jour Conrad Schreiber, que vous connaissez peut-être, qui travaille aussi sur ces questions de sol et d'amélioration des sols. Il disait, l'erreur, c'est de vouloir fertiliser les sols, alors que ce qu'il faudrait, c'est leur rendre leur fertilité.
Ah ben, c'est exactement ça. L'erreur aussi, aujourd'hui, c'est de croire qu'on nourrit les plantes. Donc, je sème du blé et je mets de l'engrais pour nourrir mon blé. Mais c'est une erreur monumentale. Si je veux semer du blé, il faut déjà que je commence par mettre des aliments qui vont nourrir les micro-organismes du sol, bactéries et champignons, qui elles-mêmes nourriront le blé. Comme ça, j'aurai un sol vivant. Il faut nourrir le sol, il faut nourrir les micro-organismes du sol, les animaux du sol, et par ricochet, les plantes seront nourries et bien nourries.
Mais alors, qu'est-ce que c'est ces aliments qu'on donne au sol ? C'est alors, évidemment pas la potasse chimique, le phosphore chimique, les fameux NPK.
Alors, on a vu que les bactéries du sol avaient besoin pour vivre de base, qu'elles avaient besoin pour vivre d'oxygène. Ben, le troisième besoin qu'elles ont pour vivre, c'est de la matière organique. On nourrit les micro-organismes du sol avec les matières organiques. Parce qu'il y a plusieurs matières organiques. Hein. Il y a la matière organique végétale, qui est généralement très riche en carbone, et puis il y a les matières organiques animales, qui sont généralement soit beaucoup plus équilibrées, du carbone et de l'azote, soit très riches en azote. Donc il faut nourrir le sol avec des matières organiques équilibrées pour que ce fameux C sur N, carbone sur azote, hein, c'est un rapport qu'on peut faire. On analyse en laboratoire un kilo de matière organique, et puis on regarde combien il y a de grammes de carbone, combien il y a de grammes d'azote, et on divise le poids de carbone qu'on a trouvé par le poids de l'azote, et on obtient un chiffre.
Quoi. Oui, mais ça, c'est très technique. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on donne des engrais industriels, chimiques, ou est-ce que c'est autre chose dont vous parlez? Est-ce que c'est le compost?
C'est très technique, mais c'est très important.
Ah donc vous insistez, allez-y.
Voilà. Mais justement, non, là, on est dans la nourriture du sol. Là. On n'est pas dans la production... avec les engrais minéraux solubles. On nourrit le sol pour que le sol nourrisse la plante, ou que la vie du sol nourrisse la plante. Donc là, il va falloir ramener des très bonnes matières organiques. Alors, sous forme de compost, justement. Les matières organiques non compostées en anaérobiose, comme les lisiers, sont une véritable catastrophe sur les sols. Le pire, aujourd'hui, on parle beaucoup des produits chimiques. C'est sûr que les produits chimiques sont extrêmement polluants, extrêmement dégradants pour les sols. Mais le lisier, qui peut paraître un produit tout à fait naturel, est un produit qui est tout aussi polluant et tout aussi dégradant pour les sols que les produits chimiques.
Le lisier de porc, de vache ?
Tous les lisiers. Du moment que la matière organique est sous forme liquide, elle tue toute vie dans le sol. Donc si on veut vraiment avoir un sol vivant, il faut récolter le fumier des animaux, de n'importe quel type d'animal, et faire du compost. C'est-à-dire le compost, c'est la fermentation en tas de la matière organique animale mélangée avec de la matière organique végétale et grâce à l'oxygène de l'air. Et là, on obtient cette manière noble qu'on appelle l'humus et qui va nourrir le sol, nourrir les éléments du sol et qui nourriront les plantes.
Et au choix, n'importe quel animal. C'est-à-dire qu'en fait, le compost, c'est partout avec
alors,
les animaux.
Les matières organiques animales, suivant les animaux qui les ont produits, ont des compositions différentes. Alors, il faut souvent faire des mélanges pour avoir quelque chose d'équilibré. La nature, elle aime bien la biodiversité. Et dans le compost, c'est la même chose. Si on veut avoir un beau compost, il faut de la biodiversité dans le compost. Le fumier de cheval, il est surtout riche en carbone. Tout seul, c'est pas bon. Bon, le fumier de bovin, si les bovins ont eu de la litière avec de la paille de blé, avec de la paille, ça fait un fumier à peu près équilibré, qui fera un bon compost. Le fumier de mouton est déséquilibré, lui. Il a très peu de carbone par rapport à l'azote et à la potasse. Il est très riche en potasse. Donc, si on l'emploie tout seul aussi, c'est trop riche en azote, c'est trop riche en potasse. Donc, c'est bien de le mélanger, justement, avec du fumier de cheval pour avoir quelque chose qui soit très intéressant. Alors, le fumier de volaille, lui, il n'y a pratiquement plus de carbone dedans. Il n'y a plus que de l'azote et de la potasse et des quantités énormes de phosphore. Donc, on ne peut pas l'employer pur. Le fumier de volaille, il faut absolument le composter avec un fumier type fumier de cheval aussi. Donc, on voit, le meilleur des composts, c'est un compost dans lequel on aura mis plein de fumiers différents, voire même dans lequel on aura rajouté des végétaux qui vont l'améliorer. C'est ce qu'on appelle les végétaux améliorateurs de compost, comme la prêle, comme la consoude, ou comme les fougères, le buis et tout ça.
Ah, c'est bien, vous revenez aux plantes, Gérard Dusserre. Je trouvais que vous en étiez éloigné, et c'est dommage, parce que le compost aussi, c'est des histoires de plantes. Vous dites que les animaux, leurs excréments font lever la dormance des plantes que les animaux aiment manger?
Alors, dans les excréments des animaux, il y a ces deux éléments principaux, le carbone et l'azote, qu'il faut qu'ils soient équilibrés. Mais les excréments des animaux ont aussi cette particularité, c'est de contenir des hormones qui lèvent la dormance des espèces qu'ils mangent. On voit, ce phénomène de la dormance est quelque chose d'extrêmement important. Quoi, parce que,
exemple,
eh ben, le cheval, qui est un animal qui, avant sa domestication par l'homme, était un animal des lisières et clairières forestières. C'est-à-dire qu'il vit au bord de la forêt, les endroits où il y a la fétuque rouge, les espèces herbacées préforestières, ou voir des broussailles, les églantines, les aubépines, les prunelliers, toutes ces espèces forestières ou préforestières. Donc, le fumier de cheval, qui est déjà très riche en carbone, va favoriser ces espèces, mais en plus, les hormones qu'il y a dans le fumier de cheval vont lever la dormance de ces espèces forestières ou préforestières. Donc, si on veut pas de broussailles dans sa prairie, bah, il faut pas mettre du fumier de cheval, quoi. Le fumier de bovin, lui, par contre, les bovins sont originaires de la grande prairie primaire, c'est-à-dire des endroits où il y a les grandes plantes fourragères, les fétuques, les graminées, les pâturins, les légumineuses fourragères, les luzernes, les trèfles, et voire les renoncules, les plantains, beaucoup d'espèces fourragères. Donc, le fumier de bovin va contenir des hormones qui vont élever la dormance des grandes espèces fourragères que la vache mange.
Mais oui, mais il y a un hic, Gérard Dussert, c'est que les composts en agriculture, ils sont souvent employés sur des cultures qui n'ont rien à voir avec ces plantes que vous venez de décrire. Ils sont souvent employés en maraîchage, ou alors sur des cultures de céréales, ou sur, dans de l'arboriculture.
Eh ben, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire des mélanges de diverses matières organiques animales pour pas avoir les inconvénients qui sont des avantages normalement. Si je mets mon fumier de bovin sur une prairie, c'est un super avantage, parce que ça va favoriser ma prairie. Mais en maraîchage, ça ne va pas bien marcher, oui. Donc dans ces types de cultures, normalement, qui dit culture, dit absence d'animaux. Hein. Parce que s'il y a des vaches dans un jardin, ça ne va pas, quoi. Les légumes vont avoir une drôle de tête. Hein. Donc si je veux faire du jardin, si je veux faire du maraîchage, pour pallier à ces problèmes d'hormones dans les excréments des animaux, ben, il faut les mélanger. Et les uns vont en fait rééquilibrer les problèmes de l'autre et j'aurai quelque chose qui va fonctionner. Dans mon jardin, j'ai de tout. J'ai des plantes qui sont des plantes à feuilles, comme les salades, comme les laitues, qui ont besoin du fumier de bovin parce que c'est lui qui favorise les feuilles. J'ai des plantes qui produisent des fruits, comme les tomates ou comme les melons, donc qui ont besoin du fumier de volaille qui favorise la mise à fleurs et la mise à fruits. J'ai des plantes qui ont plus de racines, donc j'aurais besoin aussi d'autres types de matières organiques qui vont favoriser l'enracinement. Pour faire du maraîchage dans lequel on a un tas de plantes différentes, qui ont un tas de comportements différents, dont on utilise des tas de parties différentes d'ailleurs. Dans les choux-fleurs, on mange la fleur, dans les navets, on mange la racine. Hein. Dans les carottes, on mange la racine. Donc, j'aurais besoin de matière organique, de compost, qui soit beaucoup plus diversifié que si je fais de la prairie ou de la céréale.
Juste pour terminer sur ce chapitre, c'est pas un peu mystérieux? Ces plantes qui lèvent leur dormance et qui donc pointent leur tête, justement pour se faire manger et donc pour se faire ratatiner.
Ah bah oui, mais elles se font manger, elles se font ratatiner, mais c'est aussi un moyen de faire transporter leurs graines. Si on reprend la prairie hein, de tout à l'heure, il y a deux plantes caractéristiques de la vache, qui sont la renoncule acre, le grand bouton d'or, et le trèfle blanc. Donc c'est deux plantes que la vache adore. Ça. Quand elles sont à l'état de feuilles au printemps, elles les broutent. Donc à un moment donné, ces deux plantes, elles vont vouloir monter en fleurs. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont fabriquer des hétérosides cyanhydriques pour que ça sente mauvais pour la vache, parce que la vache, elle n'aime pas cette odeur. Donc, ça sente mauvais pour la vache et qu'elle ne la mange plus. Comme ça, elles vont pouvoir monter en fleurs, elles vont faire des fleurs, elles vont faire des graines. Et puis, une fois les graines produites, les hétérosides cyanhydriques vont repartir, vont disparaître. Les plantes vont redevenir à nouveau appétantes pour les vaches, qui vont les manger, qui vont digérer le fruit, mais pas digérer la graine. Et pendant la digestion, la vache, elle va avoir fait plusieurs kilomètres et elle va aller semer les graines plusieurs kilomètres plus loin. Et le passage dans la panse, dans la rumination, va avoir levé la dormance de la graine. Et en plus, la graine va ressortir avec la bouse, qui est un excellent engrais pour la faire pousser. Donc la vache, elle va ressemer les renoncules et ressemer les trèfles dans toute la prairie. C'est sûr que les plantes, elles vont sortir, lever la tête et se faire manger, mais c'est aussi à leur avantage parce qu'elles vont se faire transporter.
Système de reproduction très au point. J'aimerais qu'on revienne sur la façon dont les plantes, parce que là on les a vues interagir avec des animaux, dont les plantes corrigent d'une certaine façon ce qui se passe dans les sols. Et tout ça à travers ces histoires de dormance et de levée de dormance. En fait, quel que soit l'état du sol, on trouve des plantes qui peuvent venir réparer le déséquilibre qui a été produit.
depuis la roche sèche jusqu'au marécage, on a des plantes différentes qui pousseront pour corriger ces faits. Dans les sols qui sont très caillouteux, on va avoir des plantes comme la pariétaire qui va pousser, ou les sédums, les orpins, les plantes grasses, qui sont capables de sécréter des acides par les racines pour s'incruster dans la roche et la démonter, la décomposer. D'ailleurs, la pariétaire, on l'appelle populairement casse-pierre. C'est pas pour rien, parce qu'elle est capable de casser la roche. On peut reprendre aussi l'exemple de nos hydromorphismes de tout à l'heure. Quand mon sol va rentrer en hydromorphisme, ça va lever la dormance d'une plante caractéristique qui est le rumex à feuilles obtuses. Les grands rumex, qu'on appelle aussi parelles, qui ont des tas de noms. Hein, parce que quand une plante est vraiment indésirable pour l'agriculteur et considérée comme une très grande mauvaise herbe, elle a à peu près autant de noms qu'il y a de communes en France. Et donc, ces rumex qui vont pousser dans ces sols où normalement les racines ne peuvent pas s'enfoncer. Donc, vont faire des racines très puissantes qui sont capables de s'enfoncer profondément pour rétablir la communication, c'est-à-dire rétablir la circulation de l'eau. Et on a vu tout à l'heure, dans ces sols où il y a des hydromorphismes, qu'il y a des libérations d'aluminium et qu'il y a des libérations de fer. Le rumex est une plante qui est capable de mettre sous une forme non soluble, donc non toxique, le fer et l'aluminium qui est libre dans le sol et qui est toxique. Donc ces plantes vont épurer le sol du fer et de l'aluminium toxique qui s'est libéré par ce phénomène d'hydromorphisme. Et même si on prend le rumex comme médicament, pour l'animal ou pour l'homme, les rumex, on s'en sert d'ailleurs pour soigner les intoxications aux métaux. Donc on voit là où la plante pousse, là où il y a la maladie, il y a le remède. Le rumex, dont c'est l'hydromorphisme qui lève la levée de la dormance de la graine, va soigner les hydromorphismes ou soigner les conséquences des hydromorphismes.
Alors, on le sait, Gérard Dussert, on a aujourd'hui infligé un certain nombre de maladies très graves à la Terre, sous forme de pollution diverses par des métaux lourds, par des résidus de pétrole et de combustion, de dioxines, etc., par de la radioactivité. Et de fait, l'idée de passer par les plantes, c'est une idée qui a largement traversé l'esprit d'un certain nombre de personnes, et en particulier dans les milieux de la recherche et dans les milieux industriels. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu pervers là-dedans ?
Il n'y a rien de pervers. En fait, le salut passera par les plantes. Il n'y a pas d'autre solution. Si on ne se sert pas des plantes, notamment celles dites mauvaises herbes, pour soigner nos sols ou pour nous soigner nous-mêmes, on va s'intoxiquer complètement, quoi. L'épuration des toxines du sol passe par les plantes sauvages qui vont agir, elles, ou faire agir les champignons pour épurer. Alors c'est sûr qu'il peut y avoir un effet pervers, c'est que dire, si on arrive à soigner les pollutions par les plantes, eh ben on fera encore plus de pollution. Nous, dans le Brionnais, on a un proverbe qui dit « un mordu par le chien, mordu par la chienne, il faut y passer ». Donc, pour moi, il vaut quand même mieux épurer les sols, éviter l'intoxication des sols, éviter l'intoxication des animaux, éviter l'intoxication des hommes. Peut-être justement que grâce aux plantes, il y aura une prise de conscience qui fera qu'on arrêtera d'intoxiquer les sols. C'est sûr que si on épure les sols et si on rétablit la vie et puis que derrière on continue à la détruire, c'est insensé cette histoire. Mais peut-être que faut commencer par épurer les sols et peut-être qu'après, on prendra conscience. Ben, maintenant qu'on les a épurés, on ne va pas recommencer à les polluer pour avoir après à nouveau le travail de les réépurer, quoi.
Vous avez vu des exemples d'épuration des sols par les plantes
Oui. Beaucoup d'exemples d'épuration des sols par les plantes, notamment dans les grands vignobles où on avait fait des choses pas très catholiques. Les années 60-70, hein, comme en Champagne, avec les composts urbains, comme dans le sud-ouest, dans le Médoc, avec les produits chimiques hyper polluants, ou le fait de ne plus désherber chimiquement, de garder les plantes qui poussent spontanément, et le fait aussi de stimuler les plantes sauvages et de stimuler la vie du sol, notamment par des bons composts, voire même des préparats biodynamiques, où on a épuré les sols des produits chimiques qui étaient dedans. On peut aussi épurer les sols par des plantes qui vont pas faire disparaître les produits chimiques, mais qui vont les absorber et les stocker. La principale plante pour stocker les produits chimiques, c'est le tournesol. Le tournesol, il va pomper tout ce qu'il y a dans le sol, il va le monter dans la graine, parce que tout ce qui est matière huileuse a la capacité de stocker, sans relarguer, sans relâcher. Donc, moi, j'ai fait faire plusieurs fois des agriculteurs qui étaient en agriculture biologique, mais qui achetaient la parcelle d'un voisin qui était en chimie. Il dit, on fait 3 ans de tournesol, et au bout de 3 ans de tournesol, on a épuré les pollutions et on peut faire de l'agriculture biologique propre.
Qu'est-ce qu'on fait des graines ?
Les graines, il faut soit les stocker dans des zones de stockage de déchets, comme les déchets radioactifs, c'est aussi dangereux d'ailleurs, soit les revendre à ceux qui ont vendu les pesticides, les organismes stockeurs qui achètent du tournesol pas bio, quoi. Parce que les graines, elles sont pleines de pesticides. Mais elles sont pas plus de pesticides que les tournesols qui sont pas cultivés en bio. Hein. En France, il y a des milliers d'hectares de tournesols qui sont cultivés en agriculture conventionnelle, pas en bio. Donc, ils contiennent tous les pesticides du sol.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez des liens vers Gérard Dussert et vous y retrouverez également notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon. Mixage, Pascal Bénard. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.